Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit public. Aujourd'hui, guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. L'Europe doit-elle choisir son camp? Et fin de vie, l'impossible consensus? Nos débatteurs ce dimanche, Anne-Lorraine Bujon, bonjour.
Bonjour.
Directrice de la rédaction de la revue Esprit, le dernier numéro est consacré à l'intelligence artificielle, l'IA aux frontières de l'esprit. Laetitia Stroche-Bonnard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes essayiste, votre dernier essai, La gratitude, récit politique d'une trajectoire inattendue, est sorti aux éditions de l'Observatoire. Yves Bertoncini, bonjour.
Bonjour.
Consultant en affaires européennes, vous êtes enseignant à l'ECP Business School et au Corps des Mines. Et Jean-François Colosimo, bonjour.
Bonjour.
Historien, directeur des éditions du CERF, Occident, ennemi mondial numéro 1, c'est votre dernier ouvrage chez Albin Michel. Dans la deuxième partie de l'émission, nous évoquerons le débat sur la fin de vie. La loi dont l'examen fut suspendu l'an dernier pour cause de dissolution était de retour à l'Assemblée nationale cette semaine, en commission, avec toujours des divergences sur les modalités de son application. Nous en débattrons. Mais pour commencer, un duel commercial au sommet, celui auquel se livrent Américains et Chinois sur fond d'inflation de taxes douanières.
It's an amazing thing. This has been...
C'est un procédé utilisé contre nous depuis des années par d'autres pays, la Chine en particulier. Mais pas seulement, ils nous ont exploités, arnaqués et laissés pour mort.
Si les États-Unis ignorent les intérêts des deux pays et de la communauté internationale et insistent sur une guerre des droits de douane et une guerre commerciale, la Chine les combattra jusqu'au bout.
On connaissait la diplomatie du ping-pong qui avait permis à l'Amérique de Richard Nixon de se réconcilier avec la Chine de Mao Tse-tung. Eh bien, c'est à une autre partie de raquette que se livrent aujourd'hui Washington et Pékin, plus proche du squash que du tennis de table, tant les coups échangés sont violents. Au service, Donald Trump. La semaine dernière, il annonce vouloir imposer des droits de douane de 34% aux produits chinois vendus sur le sol américain. Xi Jinping réplique, œil pour œil, dent pour dent, ce sera aussi 34% pour les marchandises américaines qui arrivent en Chine. Smash du président américain, un coût à 104%. Son homologue chinois tente un amorti avec des taxes à 84%. Trump délivre une balle enregistrée à 124%, bientôt suivie d'une autre à 145%. Xi lui répond par un revers lifté à 125%. Amorti de Trump, les smartphones et ordinateurs made in China sont exemptés. Match suspendu, la suite au prochain épisode. Alors face à cette guerre commerciale entre les deux plus grandes économies du monde, comment l'Union européenne doit-elle se positionner? Certes, l'administration américaine vient d'offrir un sursis aux Européens en suspendant pour 90 jours les droits de douane réciproques qu'elle voulait leur imposer. Mais on le sait, le Trump est versatile. La vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. L'Europe est devenue méfiante à l'égard de son allié américain. Au point de se tourner davantage vers la Chine. Mardi dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le premier ministre chinois Li Qiang se sont téléphonés, s'engageant à soutenir un système commercial solide, juste et fondé sur l'égalité des conditions de concurrence. De quoi amorcer un rapprochement, en dépit des contentieux commerciaux qui existent entre les deux partenaires. La Chine, en tout cas, fait les yeux doux aux investisseurs européens, promettant une terre idéale et pleine de promesses à qui veut y faire des affaires. Un discours séduisant, de nouveaux débouchés en perspective, mais certains sonnent l'alerte. Attention, c'est un piège. La Chine va en profiter pour nous inonder de ses marchandises à bas prix. Alors face aux États-Unis et à la Chine, l'Europe doit-elle choisir son camp? C'est donc la question de notre premier débat du jour. Yves Bertoncini, alors la première question qu'on se pose avant peut-être de se demander quel doit être le positionnement de l'Union européenne, c'est jusqu'où est-ce que ça peut aller, cette guerre des tarifs douaniers entre les États-Unis et la Chine? Et qui va céder le premier? C'est peut-être d'ailleurs Trump qui vient de le faire en décidant que les smartphones et les ordinateurs qui sont fabriqués en Chine et qui sont importés aux États-Unis seraient exemptés de ces surdroits de douane.
Oui, l'imposition de droits de douane, il faut le rappeler, hein, en entrant dans un débat comme celui-ci, est d'abord une sanction contre ses propres consommateurs et ses propres entreprises. Et donc Donald Trump a décidé d'imposer les droits de douane que vont payer les importateurs américains. C'est dans le cadre d'un rapport de force, non pas seulement avec la Chine, mais le monde entier, puisqu'il ne fait pas de, pas, pas de quartier, pas de prisonniers, hein, n'importe qui, même ses alliés proches. Face à cela, bah, écoutez, les Européens ont eu raison de prendre leur temps et ont toujours raison de prendre leur temps, même s'il faut qu'ils affichent leur fermeté. Et en tout cas, la meilleure preuve, c'est que Donald Trump s'est déjugé assez vite parce que beaucoup sonnent l'alerte aux États-Unis, y compris parmi ses alliés les plus proches, en lui disant qu'il inflige à coup sûr des dommages immédiats aux États-Unis d'Amérique, notamment en termes de restrictions d'accès à des biens et services qui étaient de bonne qualité, c'est pour ça que les Américains les achetaient, en termes d'inflation potentielle, sous couvert, peut-être à moyen terme, d'attirer davantage d'investissements aux États-Unis et de recréer des emplois. Et pour ça, effectivement, il a un mandat. Le problème, c'est qu'il y va de manière extrêmement erratique. Les Européens, donc, choisissent, n'ont pas à choisir leur camp. Le camp des Européens, c'est celui de l'ouverture. Voilà. Il faut le rappeler, hein, en entrant dans ce débat, l'Europe, c'est le plus petit des continents. Je fais un peu de géographie. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas, en particulier les matières premières énergétiques. Peut-être qu'on arrivera un jour à en sortir, hein, d'ailleurs, du pétrole et du gaz. Mais pour l'instant, il nous en faut. On n'en a pas. Alors, on n'a pas de pétrole. On a des idées.
C'est quand même une énorme puissance commerciale. C'est-à-dire l'Union européenne, à condition évidemment qu'elle avance unie, mais c'est un acteur de poids.
Absolument. Donc, c'est l'une des principale puissance commerciale du monde, plus que les États-Unis. Je veux aussi ajouter, donc l'Europe est ouverte, elle est ouverte par intérêt et pas par idéologie. L'Europe est excédentaire vis-à-vis du reste du monde. Il faut toujours le rappeler, dans un pays comme la France qui cumule les déficits commerciaux, l'Europe est excédentaire vis-à-vis du reste du monde. On le voit bien d'ailleurs vis-à-vis des États-Unis, ça fait enrager Donald Trump parce qu'on est largement excédentaire dans le domaine des biens et certes déficitaire dans le domaine des services. Mais donc les Européens sont dans le camp de l'ouverture. Évidemment que ça les ennuie beaucoup ce qui se passe avec les États-Unis d'Amérique qui sont, et de très loin, notre principal partenaire commercial, économique, financier. La Chine étant le second, à un degré moindre. Bon, on verra si la politique erratique de Donald Trump est poursuivie, de quelle manière. C'est un peu le pif-paf, hein, le boomerang pour l'instant aussi, ça lui revient. Quant aux Chinois, écoutez, je crois que les Européens ont des liens importants, pour le coup plutôt des déficits hein, de ce côté-là, qu'il y aura deux problèmes. Le problème très ponctuel à court terme, c'est de gérer les excédents chinois qui pourraient effectivement se déverser en Europe. Et là, il y a eu des dialogues, un premier dialogue intéressant entre Madame von der Leyen et son homologue. Bon, ça serait quand même des produits à bas coût qui arrivent. C'est pas une catastrophe pour tout le monde, mais en termes d'emploi, ça serait quand même industriel fâcheux.
Mais, et puis le deuxième sujet. Quand vous dites ouverture, ça veut dire quoi? Ça veut dire on ménage les États-Unis et la Chine? C'est-à-dire on essaie d'avoir une position médiane entre les deux?
On ménage les États-Unis, non. On doit répondre fermement. Il y avait d'ailleurs une première salve de sanctions commerciales adaptées par les Européens, tout à fait récemment, pour répondre à la première salve de Trump sur l'acier et l'aluminium, donc un peu plus de 20 milliards d'euros. Il faut afficher sa fermeté, certes, mais ne pas le faire de manière trop rapide et disproportionnée. C'est vrai que quand Trump dit que les gens viennent lui lécher le derrière, on a plutôt envie de lui botter le derrière que de lui lécher, à vrai dire. Mais si on garde son calme, les Européens le font, on y va tranquillement. Pour ce qui est de la Chine, je termine, il y a un défi plus structurel, c'est que la Chine est entrée dans l'OMC, dans l'économie mondiale, sans respecter pleinement les équilibres de marché et les règles de l'économie de marché. Et donc c'est vrai que c'est ça qu'il faudrait traiter avec les Chinois, parce que leurs surcapacités viennent aussi de là, mais ça c'est un sujet de moyen terme.
Et en même temps, aujourd'hui, ce sont les Chinois notamment qui défendent le respect des règles auprès de l'Organisation mondiale du commerce, si bien que, Laetitia Strolbona, on a l'impression que la sagesse, elle est du côté de la relation entre l'Europe et la Chine davantage que de celle entre l'Europe et les États-Unis. Est-ce que vous êtes d'accord malgré tout pour dire avec Yves Bertoncini qu'il ne faut pas forcément choisir un camp?
Je suis tout à fait d'accord. Je pense que l'Europe doit avoir une position assez stratégique. Elle doit ménager tous ses alliés potentiels. Les États-Unis en ce moment le sont moins qu'avant. Il pourrait le redevenir un jour. Donc, il faut répondre quand la politique américaine est agressive, mais il ne faut pas être plus agressif en réponse que nécessaire. Vis-à-vis de la Chine, il faut aussi être prudent, parce que la Chine se positionne comme une puissance économique vertueuse, mais on sait bien que elle a donner à son industrie un certain nombre d'aides publiques, ce qui fausse quand même le règle du commerce international. On sait aussi que des entreprises non chinoises, donc européennes ou américaines, veulent faire des affaires en Chine, elles doivent quand même en payer le prix. Concrètement, il y a des demandes de partage de propriété industrielle. Il y a aussi des cas d'espionnage. Des cas que je trouve très inquiétants. J'ai lu récemment un livre qui s'appelle Careless People de Sarah Wynne Williams, qui était une ancienne chargée d'affaires publiques chez Facebook. Et elle explique que donc elle y était entre 2011 et 2017. Alors ce livre est exceptionnel, il y a des révélations vraiment très intéressantes. Et elle explique notamment que Mark Zuckerberg à un moment a voulu implanter Facebook en Chine et que il était prêt à accepter que les Chinois surveillent leur population via Facebook en échange d'une entrée de l'entreprise en Chine. C'est une anecdote. Mais ce que je trouve inquiétant, c'est que si jamais on veut approfondir les partenariats entre l'Europe et la Chine, qu'est-ce qui empêche certaines entreprises d'accepter ce genre de marché complètement inéquitable et dangereux. Donc soyons quand même réalistes. Regardons la Chine telle qu'elle est. Il faut aussi bien s'informer sur la Chine, son système politique, son idéologie, qui d'ailleurs est beaucoup plus marxiste-léniniste aujourd'hui qu'elle ne l'a été au temps de Deng Xiaoping. Donc c'est je pense qu'il ne faut pas faire preuve d'angélisme vis-à-vis de la Chine.
Donc à vous d'entendre, Laetitia Strauss-Bonnard, j'ai l'impression que vous penchez quand même plutôt, malgré tout, malgré son côté erratique, vers les États-Unis, c'est-à-dire maintenir quand même cette relation, qui est une relation forte et ancienne entre l'Union européenne.
Il faut avoir une relation avec la Chine, mais qui ne soit pas, qui soit réaliste. Il faut essayer de maintenir une relation avec les États-Unis. Et puis, il faut que l'Europe essaie de rester, unie. Parce que le but de Donald Trump, c'est que les pays européens se fassent, soient en conflit les uns avec les autres. Je pense que l'idéal pour lui serait de réussir à faire des deals avec chaque pays. Et l'Europe doit garder la tête froide et refuser cet éclatement, en fait, de sa stratégie. Et simplement pour finir sur les raisons, qui ont amené Donald Trump à prendre ses décisions. Bien sûr que sa réponse n'apporte pas de solution. L'historien Niall Ferguson a écrit récemment dans The Free Press que c'était comme essayer de réparer un ordinateur avec un marteau. Voilà, c'est sûr que ça ne va pas le réparer. Mais tout de même, si on en est arrivé là, c'est que il y a eu une perte d'emplois industriels trop importante aux États-Unis. Au regard, selon certains Américains qui ont voté pour Donald Trump, et j'ai l'impression qu'on ne se dirige pas du tout vers une tentative de réponse, c'est-à-dire une réponse qui soit un compromis entre la nécessité d'avoir des produits en effet accessibles venant d'autres pays du monde à moindre coût et aussi quand même la possibilité de les produire dans chaque pays pour que les gens aient des métiers qui aient du sens, que les gens ne soient pas seulement des consommateurs mais aussi des producteurs.
Jean-François Colosimo, face à ce duel entre les deux premières puissances économiques mondiales, États-Unis-Chine, vous avez l'impression qu'aujourd'hui les Européens réussissent à garder la tête froide ?
Pour l'instant, mais leurs intérêts d'un point de vue national sont quand même très divers et très différenciés. Donc, moi je pense que il y a plusieurs choses qu'il faut dire. D'abord, c'est que depuis qu'il y a eu ce qu'on appelle la vague des révolutions atlantiques à la fin du XVIIIe siècle, révolution anglaise, révolution française, révolution américaine, révolution dans les pays d'Amérique du Sud, enfin, etc., c'est constitué un monde, donc, qui a donné lieu plus tard au libre-échange. Mais rappelons-nous quand même que, à partir de ce moment-là, à partir du 8e siècle, il n'y a eu que deux périodes de vérité. Le protectionnisme a totalement régné, sauf entre 1815 et 1870 à peu près, et 1945 et 2010. Le reste du temps, il n'y a eu que des politiques protectionnistes partout, et particulièrement aux États-Unis, après 1890 et jusque au New Deal de Roosevelt. Donc, il ne faut pas être trop surpris non plus qu'il se retourne au protectionnisme. La deuxième chose...
Donc, on reviendrait presque à une forme de normalité aujourd'hui ?
Non, mais je dis que... Sur, disons, 2-3 siècles, c'est le protectionnisme qui a dominé et pas le libre-échange. Voilà. Ça, donc, de ce point de vue-là, il y a eu des périodes d'alternance, mais le libre-échange, c'est la part la plus minime, en fait, sur ce quantum de temps. Le deuxième point, c'est que, il y a une modification du capitalisme. Le capitalisme, aujourd'hui, voit des affrontements extrêmement violents fondée sur la maîtrise des métaux rares qui sont indispensables aux technologies, lesquels conditionnent en fait la maîtrise des transports, dont l'espace. Donc c'est ça l'enjeu, et là, effectivement, les États-Unis n'ont qu'un rival, c'est la Chine. Troisième point, c'est que Donald Trump, dans The Apprentice, cette espèce de télé-réalité qu'il faisait, a toujours employé cette méthode qui est quand même commune à toutes les écoles de commerce, c'est qu'on rentre dans une négociation au maximum, de manière nucléaire, et ensuite, on peut pratiquer la désescalade. Parce que de toute façon, on va pratiquer de la désescalade. Donc, autant partir je dirais quasiment du point d'explosion. Juste pour finir, non, bien sûr, on se trouve face à une Chine tout de même. Alors bon, nous, l'Europe, elle est excédentaire avec les États-Unis. Enfin, c'est principalement quand même l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie. Nous, on vient très, très, très loin derrière la France. Et puis surtout, le marché allemand, il est composé d'automobiles et de médicaments, tandis que nous, on est sur les spiritueux et les cosmétiques, qui sont des produits bien plus fragiles en période de récession de la consommation. Mais passons. Non, moi, je pense que la Chine, on peut l'accuser, l'Europe le dit, sans le dire, tout en le disant, d'une espèce de surcapacité de produits subventionnés. Avec une braderie ensuite des excédents, ce qu'on peut redouter si jamais ça se bloque entre la Chine et les États-Unis, qu'on redevienne un tiers marché où on va avoir une invasion de produits chinois bradés, soldés, et avec pour effet une saturation des marchés qui entraîne notre propre désindustrialisation parce qu'on n'est plus du tout compétitif de ce point de vue-là. C'est ça la clé du problème avec la Chine. Moi, je note qu'on n'a pas ce problème avec les États-Unis.
Alors c'est évidemment une question de rapport de force, Anne-Lorraine Bujour, mais si on reste sur cette question de la relation entre l'Union européenne et la Chine, on peut voir effectivement, alors que l'Union européenne est déficitaire par rapport aux produits chinois et qu'il y a ce risque de voir déferler de nombreux produits chinois qui ne trouvent plus de débouchés sur le marché américain, mais est-ce que ça peut pas être aussi pour les Européens un levier de négociation avec les Chinois, de dire, bah, attendez, si vous voulez effectivement essayer de nous vendre davantage de produits, il faut aussi que de votre côté, vous fassiez des efforts pour nous ouvrir plus largement votre marché. Est-ce que ça peut aussi fonctionner comme ça ?
Alors, ce qui est vrai, c'est que si on s'avance vers une sorte de discussion entre la Chine et l'Union européenne sur la manière dont on peut essayer de réformer le système multilatéral qui encadre le commerce international que la Chine n'a pas respecté jusqu'ici et qui a un très grand besoin d'être réformé, oui, je pense qu'il faut que l'Union européenne active ses leviers. Mais je crois surtout, en fait, que même si on est plongé dans un moment de grand désordre mondial qui est surdéterminé par cette rivalité systémique Chine-États-Unis. Là, on le voit, ça éclate au grand jour, mais c'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, c'est Donald Trump, mais c'était aussi son prédécesseur, Joe Biden, c'était aussi le premier Trump, c'était aussi Obama. Donc, on sait que cette rivalité systémique Chine-États-Unis, elle surdétermine les relations internationales.
Systémique, ça veut dire que ça n'est pas seulement une rivalité commerciale.
Exactement,
évidemment.
Exactement. Mais je crois que, en fait, l'Europe doit résister à cette idée que le monde serait devenu un duopole. Le monde n'est pas un G2. Et donc, il ne faut pas laisser ni les États-Unis, ni la Chine se comporter comme si le monde était un G2. Donc il faut absolument défendre cette multipolarité. C'est vrai au plan politique, géopolitique. Pour moi, c'est vrai aussi au plan intellectuel, parce qu'on n'a pas deux modèles idéologiques qui s'opposent. Ça, c'est pas vrai. Il y a deux puissances qui s'opposent, mais dans les deux cas, on a un État autoritaire, voire totalitaire, qui s'appuie sur le capitalisme pour défendre ses intérêts. Et donc précisément, je crois que ce qu'il faut voir, c'est que ces guerres commerciales, c'est pas vraiment des guerres, c'est des affrontements très durs où tous les coups sont permis maintenant, et c'est pas uniquement commercial. Et donc il faut bien voir que derrière ces questions commerciales et de droits de douane, ce qui se joue, c'est des questions de rivalité stratégique, c'est des questions de rivalité militaire. C'est la suprématie sur les mers, c'est le contrôle des infrastructures portuaires, des routes du commerce maritime, et ce sont des questions financières aussi. Donc on a bien vu, ce qui a fini par faire reculer Donald Trump, c'était le risque d'une crise financière financière mondiale. Donc on est dans un moment d'intrication de tous ces enjeux. Je soupçonne que Jean-François Colosimo a lu comme moi l'excellent livre d'Arnaud Orin qui s'intitule Le monde confisqué, qui absolument parle de ces alternances entre des moments d'espérance libérale et ces moments de capitalisme de la finitude, protectionniste, prédateur, de la rente, un monde néo-mercantiliste, néo-impérial, néo-colonial. On est entré dans ce monde et l'Europe doit en tenir compte. Donc en fait, on est sorti du régime du commerce multilatéral qu'on connaissait depuis les années 90. On en est vraiment sorti. Et pour moi, il faut voir si on veut s'engouffrer dans les politiques néo-impériales de la Chine ou des États-Unis, ou si on veut essayer de défendre autre chose avec d'autres partenaires. Je dis, le monde est multilatéral. Il y a l'Inde, il y a le Brésil, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Amérique latine. Aucun de ces pays n'a intérêt à ce que le monde soit dominé par ce duopole. Donc il faut trouver des accords avec eux et il faut trouver ce qu'on peut sauver d'un monde de règles, parce qu'un monde sans règles, c'est un monde où on ne peut plus commercer sans entrer dans ces zones grises entre guerre et paix.
Vous avez évoqué le livre d'Arnaud Orin, Le monde confisqué, qui est sorti il y a très peu de temps, donc est très facile à trouver en librairie.
Et livre voilà, très important, effectivement, je suis d'accord avec Arnaud Orin, très important.
Voilà, bah écoutez, on vous invite à le consulter, à l'acheter.
C'est un très bon livre et c'est très agréable à lire aussi.
Et si ma mémoire est bonne, il était sur France Culture il n'y a pas très longtemps. Yves Bertoncini.
Bon, sur Trump, un rappel, hein, suite à ce qu'a dit Jean-François Colosimo, c'est quand même la plus grande destruction de valeur jamais créée par le seul grâce d'un homme qui adopte un comportement totalement erratique, qui a peut-être d'ailleurs pu donner lieu sur le plan boursier à quelques délits d'initié, mais ça, les Américains nous le diront. Alors certes, c'est peut-être l'art du deal. On aurait tout à fait compris que Trump adopte un agenda protectionniste, voire isolationniste. Et là, je rejoins Jean-François Colosimo. C'est une grande alternance dans l'histoire des États-Unis, l'histoire longue. Là, je crois juste qu'il est en train de perdre un peu le contrôle de la situation, au détriment, je le dis bien, d'abord de ses compatriotes, sauf ceux qu'il connaît de manière affairiste, et puis au détriment du reste du monde. Et nous, Européens, au milieu de tout cela, on doit essayer effectivement de préserver autant que possible la relation économique, financière que nous avons, commerciale que nous avons avec les États-Unis d'Amérique, qui est notre principal partenaire, hein, quand même, il faut le dire, y compris en termes d'investissement direct étranger. Bon, on essaiera de le faire jusqu'à une certaine limite.
On a 90 jours, hein, puisque les droits de douane réciproques sont suspendus pendant 90 jours.
Absolument, même s'il reste, s'il change d'avis d'ici... Même s'il reste, il reste des droits de douane quand même maintenus par les États-Unis d'Amérique, mais encore une fois, qui à court terme leur font mal à eux plus qu'à nous. S'agissant de la Chine, c'est vrai qu'objectivement, puisque la Chine est plutôt partisane dans le principe de maintenir une forme d'ordre économique international ouvert, assis sur des règles. Bon, d'abord, il faudrait qu'elle les respecte mieux, les règles, ça c'est clair. Mais il y a une sorte d'alliance objective. Et puis je crois que ce qui est plus important, avec beaucoup de méfiance, certes, ce sont les autres partenaires. Parce que les États-Unis, c'est 13% des importations mondiales. Quand on dit que l'OMC s'est terminé, ben non, l'OMC, les règles de l'OMC sont encore en vigueur et actives sur les 87% restants, avec encore une fois la nuance sur la Chine qui devrait bien mieux les respecter. Mais Anne Lorraine a cité tous nos autres partenaires, c'est ça que vont faire les Européens. D'autres partenariats, pas que commerciaux, d'ailleurs politiques, stratégiques, qui sont en train d'être discutés ou conclus. J'ajoute juste pour ce qui est de la France que dans ce contexte nouveau, le projet d'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, je dirais, va revenir d'autant plus au sommet de la pile, parce que beaucoup d'Européens pensent qu'il faut le faire pour des raisons y compris stratégiques. Pour le reste, effectivement, Trump nous attaque sur notre point fort. La politique commerciale. La politique commerciale, c'est une très vieille politique depuis les années 60 et qui, de surcroît, se décide à la majorité qualifiée. C'est-à-dire que quand j'entends toujours dire il faut unanimité, enfin, les Européens vont se fissurer. Bah oui, bien sûr qu'il y a des intérêts divergents. L'Europe, c'est une construction. Mais quand on construit une position à partir de la diversité des États membres, eh bien, ça aide de pouvoir décider à la majorité qualifiée. Rappelez-vous quand il a fallu adopter des contre-mesures sur les véhicules électriques chinois. Hein. On n'est pas si naïf. On a adopté des contre-mesures. L'Allemagne était contre. Ça n'a pas suffi à bloquer la décision, elle a été adoptée. Sur le Mercosur, hélas, il pourrait y arriver la même mésaventure à la France si on ne retrouve pas un peu le point d'équilibre européen, parce que l'accord pourrait être adopté sans l'assentiment formel de la France. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la réponse aux États-Unis d'Amérique, comme dans les négociations avec la Chine, nous avons au moins cet atout de la Commission européenne qui reçoit des mandats et qui ensuite peut obtenir des décisions à la majorité qualifiée. Je n'en dirais pas autant, et je termine, si on parlait de tous les défis diplomatiques diplomatico-militaire, où là, nous sommes non seulement divisés, affaiblis, et où, quand il s'agit de décider ensemble au niveau européen, il faut l'unanimité qui est inaccessible.
Et c'est peut-être compliqué, justement, enfin, en tout cas, plutôt nécessaire que la politique commerciale soit aussi cohérente, on va dire, avec le reste de la politique, la diplomatie et les questions de défense,
Jean-Philippe. Mais c'est tout à fait le problème d'une Europe naine, il faut quand même le dire, on le voit, désarmée à tout point de vue, etc. Alors s'il s'agit de sauver quelques intérêts économiques, peut-être que l'unanimité se fera, mais ça sera malgré tout, je dirais, moi je le crains plutôt, de manière assez naïve, puisque l'épouvantail Trump pourrait tout à fait servir de marchepied à la Chine, si la Chine s'alliait à une Europe qui resterait en retard sur cette bascule du monde, qui resterait sur l'idée que, bientôt le libre-échange va être restauré, comme on l'a connu avec l'OMC et tout le reste, il y a encore 20 ans. Juste pour dire une chose, Laetitia Schroes-Bonnart l'a dit, quelles sont les conditions léonines drastiques d'investissement en Chine? Voyez, la France, elle investit en fait en Chine 15 fois plus que la Chine n'investit en France pour ce qu'on appelle les investissements directs étrangers qui sont analysables, je veux dire, parce que peut-être qu'il y a aussi toute une économie un peu noire qu'on voit pas à travers les paradis fiscaux, mais en attendant, je veux dire par là que ce qu'on voit, alors qui plus est cette pauvre France, la nôtre, elle a 30 milliards de stocks en 2022 en Chine. Donc elle en a beaucoup plus que l'Allemagne, mais en chiffre d'affaires, elle fait la moitié de l'Allemagne. Vous voyez, en plus, non seulement on investit énormément en Chine pour soutenir un appareil industriel chinois qui détruit notre propre appareil industriel, mais qui plus est, on est une fois de plus quand même beaucoup moins performant que les Allemands, qui investissent moins, mais gagnent plus. Donc je ne crois pas que quand même on va arriver à totalement s'émanciper de ces différences au sein de l'Europe. Et pour finir, oui, bien sûr, le Mercosur, mais il y a aussi le Vietnam qui est un pays crucial pour la Chine et qui est un pays de passage, n'est-ce pas? Puisque le Vietnam compte aussi beaucoup dans les exportations aux États-Unis, mais c'est une grande partie des importations chinoises déguisées, de la même façon que le Mexique. Il y a ensuite Taïwan, la Corée du Sud, le Japon. Oui, bien sûr, on peut trouver des partenaires, même s'il faut aller les chercher en Amérique latine et en Asie, plutôt que de, je dirais, parier sur la bonne volonté de l'ogre chinois face à l'épouvantail américain.
L'ogre chinois qui se cherche aussi d'autres partenaires, puisque Pékin, avec le Japon et avec la Corée du Sud, ont annoncé, après l'annonce des premiers droits de douane de Donald Trump, qu'ils allaient accélérer les négociations pour un accord de libre-échange. Peut-être que ce qui se passe aussi aujourd'hui va favoriser, mais d'une autre manière, le libre-échange à travers le monde, Laetitia Schroes-Bonnart.
Plus globalement, je pense que le libre-échange n'est pas mort, la mondialisation n'est pas morte, donc on ne va pas revenir à une ère de protectionnisme intégral. En revanche, le libre-échange va changer de nature et je pense que ce qui nous manque, c'est une vision que j'appellerais mixte, faute de mieux, je m'explique. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on a des chaînes de valeur pour la fabrication de certains produits qui sont tellement imbriqués, qui sont tellement mondialisés que c'est très difficile, en peu de temps, de retrouver des industries nationales. Et je ne crois même pas que ce soit souhaitable parce qu'on a besoin du commerce international qui enrichit les nations et leur permet de se concentrer sur ce qu'elles savent le mieux faire. Enfin, c'est la théorie des avantages comparatifs. Cependant, quand je parle de stratégie mixte, c'est qu'il faut aussi avoir en tête que certaines industries ne sont pas que des domaines économiques. Il y a des industries stratégiques. Et ces industries-là doivent, à mon avis, être pensé différemment des autres.
Bon, vous pensez à quelles industries ?
En gros, construire des vis et des boulons ou des chaises n'est pas exactement la même chose que fabriquer des médicaments ou du matériel de défense.
Ou des logiciels.
Ou des logiciels, ou bien de l'intelligence artificielle, enfin de développer l'intelligence artificielle. Et ce qu'il manque, c'est vraiment une séparation entre ce qui peut rester soumis aux règles du libre-échange et ce qui doit faire l'objet d'une réflexion à la fois nationale et européenne, en l'occurrence, pour arriver à atteindre une forme, non pas d'autarcie, mais d'autonomie, au sens même étymologique. On doit aussi pouvoir énoncer nos propres règles dans notre propre espace et être capable aussi, en cas de troubles au niveau mondial, de nous reposer davantage sur nous-mêmes. Je dis cela aussi parce qu'au moment de la pandémie, je ne sais pas si vous vous rappelez, on s'est rendu compte que au moment d'une épidémie, il était compliqué d'avoir des masques, il était compliqué d'avoir accès à certains équipements, certains médicaments. On était censé agir suite à cet épisode. Je n'ai pas l'impression qu'on ait agi et je trouve inquiétant que l'on n'ait pas politiquement pris acte de cet enjeu. À mon avis, si on ne l'a pas fait, c'est que aujourd'hui, idéologiquement, il y a une opposition frontale entre, en gros, les partisans du libre-échange d'un côté et de l'autre, les opposants au libre-échange. Il y a très peu de personnes et d'intellectuels, de personnalités politiques qui essaient de proposer justement un compromis, un équilibre, ce que j'ai essayé de développer. Et cette confrontation idéologique binaire, elle existe au niveau français, elle existe aussi en Europe. Mais tant qu'on sera dans cette binarité, je pense qu'on n'arrivera pas à avoir une vraie stratégie industrielle européenne.
Peut-être que c'est Anne-Lorraine Bujon qui va nous aider à aller vers ce compromis entre les partisans et les opposants au libre-échange.
Non, alors moi je pense vraiment que en fait tout notre cadre d'analyse de l'économie internationale doit être revu. Et donc je pense qu'on n'en est plus du tout à pour ou contre le libre-échange, à vrai dire. On est passé d'un univers où on pouvait parler de concurrence économique comme si elle pouvait s'abstraire des facteurs stratégique, politique, un monde de compétition stratégique accrue, extrêmement complexe. Et c'est ça le problème pour l'Europe, c'est qu'elle doit user de sa force commerciale, parce qu'elle est un géant commercial, pour essayer de négocier ses intérêts stratégiques. Donc c'est crucial qu'elle ne soit pas en retard sur la lecture du monde tel qu'il fonctionne. Et une des choses qui se passe, c'est aussi un phénomène de re-régionalisation. Donc ce nouvel accord dont vous parlez entre la Chine et ses voisins, pour moi, ça en fait partie. Et si on suit ce mouvement, pour l'Europe, la menace stratégique clé aujourd'hui, c'est la menace russe. Donc je crois aussi que dans toutes ces questions de guerre commerciale, de relations avec les États-Unis, de relations avec la Chine, il faut rester focalisé sur cette question de la menace russe. Quel est le rôle de la Chine aujourd'hui dans la guerre en Ukraine ? Est-ce qu'elle fait pression sur son partenaire russe ou pas? Est-ce que nous aussi on peut faire un peu de triangulation là? Ça me paraît absolument clé. Ne pas oublier un autre intérêt économique, politique, stratégique, fondamental pour l'Union européenne, qui est celui de la crise écologique. Parce que évidemment, cette nouvelle manière de faire du commerce international et de l'arsenaliser sans arrêt, ça se fait complètement au détriment du moindre programme écologique digne de ce nom. Sauf que la Chine, elle aussi, a un intérêt à travailler sur l'écologie. Et donc là encore, je dis, on a besoin d'un cadre, on a besoin de règles de sécurité, de stabilité. On peut sans doute trouver matière à discuter avec la Chine sur ces questions-là, sans naïveté, qui sont d'importance stratégique pour elle aussi.
Un petit mot de conclusion, Yves Bertoncini.
Oui, je suis d'accord pour dire que le grand jeu auquel nous assistons est beaucoup plus vaste que le seul jeu commercial. Je dois dire que donc l'Europe a des outils, l'Union européenne sur le registre commercial, et qu'elle doit en tisser d'autres, en bâtir d'autres sur les registres notamment diplomatiques ou militaires. On l'a bien vu au moment du lâchage américain de l'Ukraine, ça crée un vide et nous ne sommes pas prêts. La mutation, c'est ça que je veux dire en conclusion. La mutation est en cours. Il suffit de regarder von der Leyen 1, von der Leyen 2, le mandat de sa présidence. Les enjeux économiques étaient déjà là, mais se sont ajoutés les enjeux de décarbonation qui n'ont pas été oubliés, mais surtout, dans le mandat actuel, les enjeux de sécurité, les enjeux géopolitiques. Et donc, les Européens ont bien compris que le monde changeait. Ils veulent s'adapter au nouveau monde à partir de leurs intérêts, qui est de garder autant que possible le monde ouvert, hein, du point de vue commercial et économique, mais aussi en tenant compte, effectivement, de cette grande rivalité géopolitique entre les États-Unis et la Chine, le basculement des États-Unis vers le Pacifique, et le fait que nous devons incarner une troisième voie dans un monde qui est quand même plus vaste que celui structuré par les seuls États-continents que sont les États-Unis et la Chine. Et
nous aurons évidemment l'occasion d'en rediscuter. Il est 11h34 sur France Culture. On passe à notre deuxième débat consacré à la loi sur la fin de vie avec Catherine Vautrin qui est venue en parler. C'était cette semaine à l'Assemblée nationale. Catherine Vautrin, la ministre de la Santé et de la Famille.
France Culture, l'esprit public. Hervé Gardette.
Depuis des mois, je devrais dire des années, cette question traverse notre société. Elle soulève des convictions profondes, j'oserais dire parfois des convictions intimes et parfois des convictions douloureuses. Elle nous confronte à l'indicible. Comment accompagner celles et ceux qui approchent l'inéluctable ? Comment leur offrir la fin de vie la plus digne, la plus apaisée, la plus humaine possible ? Ce sujet profondément intime dépasse les clivages partisans, les appartenances politiques. Et je crois que malgré les transitions, les remaniements, une chose demeure, l'attente de notre société.
Et on y était presque au printemps 2024. La loi sur la fin de vie a deux doigts d'être validée par le Parlement jusqu'à ce que le Parlement se désintègre sous l'effet de la dissolution décidée par Emmanuel Macron. Débat et vote remis à plus tard. Un an après, la loi de fin de vie est de retour à l'Assemblée nationale. D'abord en commission ces jours-ci, avant l'examen en séance plénière le mois prochain, puis le vote solennel le 25 mai. Ce n'est d'ailleurs pas une, mais deux lois qui vont être soumises aux députés. L'une portant sur les soins palliatifs, l'autre sur l'aide à mourir. Le Premier ministre François Bayrou a fait le choix de scinder les deux textes afin que les divergences à propos de l'un n'empêchent pas l'adoption de l'autre. Car si la question des soins palliatifs fait consensus, tout le monde s'accorde à dire que cette méthode d'accompagnement des malades visant à alléger leur souffrance doit être développée, ce n'est pas le cas de l'aide à mourir, a fortiori de l'aide active à mourir. Cette notion avait pourtant emporté l'adhésion d'une large majorité des membres de la Convention citoyenne consacrée au sujet en 2023, mais les modalités de son application font débat. En l'état, le texte prévoit, entre autres critères pour être éligible au droit à mourir, d'être atteint d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Pour les opposants, cette formulation entretient le flou au lieu de le dissiper. Que signifie phase avancée concrètement ? Est-ce à dire qu'une euthanasie ou un suicide assisté pourrait être engagé sans délai dans la précipitation ? Les partisans de l'aide active à mourir insistent au contraire sur la nécessité d'offrir à chacun la possibilité d'avoir une fin de vie digne, possibilité dont certains seraient privés avec la loi actuelle, c'est-à-dire la loi Claeys-Leonetti de 2016 qui avait notamment instauré le recours à la sédation profonde, une euthanasie passive en quelque sorte. Et il ne s'agit de là que de quelques arguments d'un débat très complexe qui engage l'ensemble de la société. Alors le consensus est-il possible ? Nous en discutons donc aujourd'hui en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon, directrice de la rédaction de la revue Esprit, de l'essayiste Laetitia Stroche-Bonnard, du consultant en affaires européennes Yves Bertoncini et du directeur des éditions du CERF Jean-François Colosimo. Jean-François, il y a eu plusieurs lois qui ont touché de près ou de loin à la fin de vie. 99, les soins palliatifs. 2002, la loi sur les droits des malades, 2005 sur les directives anticipées, 2016 sur la sédation profonde. Je résume évidemment à chaque fois. Est-ce qu'une nouvelle loi était nécessaire et est nécessaire ?
Alors, d'abord, je voudrais dire qu'on aborde là une question qui est tout à fait difficile. Nous avons traversé les jeunes et les moins jeunes qui courent le marathon de Paris aujourd'hui pour nous retrouver dans ce studio où apparemment nous sommes tous en bonne santé. Et évidemment, il ne s'agit, qui peut juger finalement l'appel à la cessation de souffrance chez une personne, un homme, une femme, arrivée dans la certitude de la fin de sa vie, bien que, évidemment, cette personne ne sache rien de ce qu'est la mort, comme nous-mêmes d'ailleurs. Donc, évidemment, ça c'est, je crois, quelque chose de crucial à toujours garder en tête. Après ça, il y a quand même des questions qui se posent. Et il ne faut pas hésiter non plus, je dirais, à les poser, n'est-ce pas ? On sait très bien que... alors, Madame Vautrin, on l'a pas citée là, dans une autre déclaration, disait « Il ne s'agit pas d'une rupture anthropologique ». Bon, les ruptures anthropologiques, comme c'est un terme un peu tarte à la crème, on va plutôt parler de rupture sociétale. Bien sûr que c'est une rupture sociétale. C'est une rupture énorme. Je sais pas, énorme. On ne peut pas ne pas la penser comme une rupture décisive, n'est-ce pas ? Qui rupture avec toute une continuité. Rupture avec le serment d'Hippocrate. Pour tout ce qui est du monde des soignants. Lequel monde, d'ailleurs, ne me semble pas du tout acquis à ces deux choses qui sont, un, la législation, d'autre, l'exécution de ce que la législation va commander. Il y a un immense malaise, pour dire le moins, n'est-ce pas ? Il est évident aussi que les corps religieux sont contre, mais que tous les soignants qui sont eux aussi réticents, plus que réticents, peut-être même demain récalcitrants, ne sont pas tous des croyants. Donc il y a quelque chose quand même là d'énorme, c'est ce que je veux dire.
Beaucoup disent, nous sommes là pour soigner, nous ne sommes pas là pour donner la mort.
Voilà. Pourquoi ? Mais parce que, alors, d'une part, on sait que la mort est un phénomène qui devient de plus en plus individualisé, accroissant le nihilisme, un certain nihilisme de la société. Elle se déroule dans les hôpitaux. On sait que la France a gravement manqué à une politique vraiment de développement des soins palliatifs, dont on sait aussi que les personnes qui sont dans d'immenses souffrances, finalement, lorsque ces personnes-là trouvent ces soins, apprécient un temps qui leur est donné de surcroît pour vivre ce temps autrement que dans la peine et dans l'affliction. Et donc, on sait que tous ces manquements amènent à cette loi. Mais cette loi, la loi Leonetti n'était pas une loi aveugle. La loi Leonetti a accepté, vous l'avez dit, la sédation profonde qui correspond à ce qu'on pourrait appeler une euthanasie passive, c'est-à-dire le fait que l'on sait que lorsqu'on administre certains soins, ça va accélérer le décès, mais ça va permettre aussi à la personne et à son entourage, parce que je crois qu'on ne parle pas assez des entourages aussi ici, et à son entourage d'aller vers, encore une fois, cette fin mystérieuse, inéluctable, mais qui nous concerne tous et qui, au fond, habite chacune de nos existences, même si on passe notre temps à l'ignorer.
Mais est-ce que c'est pas une forme d'hypocrisie, c'est-à-dire cette euthanasie passive, est-ce qu'il faut pas plutôt l'assumer ?
Non, parce que d'abord, elle a été constante dans l'histoire de l'humanité, je veux dire, avec des moyens certainement moins pondérés, moins efficaces par le grand passé, mais dès l'Antiquité, on en parle, n'est-ce pas ? Et deuxièmement, c'est autre chose, le suicide assisté, je suis désolé, parce que si on ne donne pas le bon nom aux choses, comme le disait Charles Péguy, on ne comprendra pas. Le suicide assisté, c'est que quelqu'un administre la mort. C'est ça que ça veut dire. C'est quelqu'un d'extérieur. Le suicide assisté, c'est pas vous qui vous suicidez.
Enfin, vous fournit le produit qui vous permet de vous suicider.
Et quelqu'un vient, si je puis dire, vous l'administrer d'une manière ou d'une autre. Et donc, ça correspond, dans notre société, au sens le plus large, je suis désolé de le dire, à un homicide. Maintenant, il faut le faire ou il ne faut pas le faire, mais nous ne nous trompons pas. Et dernier point, quel législateur peut réellement affirmer qu'une fois ce principe établi, il sera correctement exécuté, et deuxièmement, qu'il ne connaîtra pas une forme d'inflation où, finalement, la situation de souffrance sera ramenée à la seule subjectivité de la personne, sans qu'il n'y ait plus de contrôle. Voilà. Donc c'est ça tout le problème qui se pose, et je voudrais dire que moi, ce à quoi je suis très attentif, c'est véritablement, ils se sont manifestés par des tribunes, par des pétitions, etc., le monde soignant n'en veut pas. À mon sens, globalement, une grande partie du monde soignant n'en veut pas ou n'en veut pas comme ça.
Juste un petit point de définition avant de poursuivre la discussion. Donc l'euthanasie, c'est le fait d'administrer à une personne en fin de vie un produit létal afin de précipiter son décès. Suicide assisté, acte consistant à fournir à une personne le produit nécessaire pour qu'elle se suicide. Cette loi sur l'aide active à mourir, Laetitia Strauss-Bonnard, elle est généralement présentée par ceux qui défendent cette modification législative comme une loi de liberté. Est-ce que vous y voyez aussi une loi de liberté? Et quelle est cette liberté? C'est-à-dire la liberté que peut avoir une personne à réclamer de mourir? Quel est le registre de la liberté là qui est en jeu?
Alors le problème, c'est que le terme de liberté veut dire tellement de choses qu'on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. Oui, cette proposition de loi est présentée comme telle par ses partisans. Je m'interroge pour ma part de la liberté que cela ôte aux gens qui sont malades et très malades, c'est-à-dire la liberté de ne pas avoir à se poser la question tous les jours de savoir s'ils doivent mourir ou non. Et ça, ce sont des témoignages qui ont été faits par des gens malades qui sont opposés à cette proposition de loi et qui expliquent qu'ils n'ont pas envie de se sentir être un fardeau. Or, si cette loi est votée, cela veut dire que des gens qui remplissent tous les critères de cette loi sont potentiellement des fardeaux, puisque ils pourront se demander, ou leur entourage se demandera, « Ah mais tiens, mais pourquoi cette personne est-elle encore en vie puisqu'elle satisfait à tous les critères de la loi ?» Donc, moi, c'est cette liberté-là, cette liberté donc de ne pas avoir à se poser cette question, qui, à mon avis, est niée. Et on l'évoque assez peu. Et plus largement, j'ai l'impression que cette proposition de loi veut répondre à des cas particuliers. Or, une loi est d'abord là pour s'intéresser à des cas généraux. Or, le cas général, normalement, c'est celui dans lequel le médecin, le soignant et la société dit aux malades « Vous comptez pour nous. Vous comptez pour nous, même si vous êtes dans un état de très grande vulnérabilité. » Donc, c'est comme si on mettait, au banc de notre société toutes ces personnes en leur faisant comprendre qu'elles ont l'option de pouvoir partir, que nous n'en avons plus besoin. Et ça rejoint autre chose. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, notre société ne supporte pas la vision de la faiblesse, de la maladie, de cette transition entre la vie et la mort qui est terrible pour tout le monde, mais qui est une fragilité qui fait partie de l'être humain.
Donc, et qui est d'abord terrible pour la personne qui souffre. Et la personne qui souffre peut être aussi amenée à revendiquer le droit qu'on l'aide à mourir.
Tout à fait. Tout
et qu'on l'accompagne vers
bien sûr, mais vous le savez bien, et Jean-François Colosimo l'a dit, il y a un manque criant de financement des soins palliatifs dans notre pays. Et c'est même assez choquant, en fait, de voir qu'on ne cherche pas d'abord à renforcer le soin palliatif et qu'on préfère, finalement, essayer de faire un peu des deux en même temps. Et alors, je vais aller plus loin, parce qu'il y a quand même un élément un peu cynique dans ce genre de proposition de loi. Je ne sais pas si vous savez, mais dans les pays qui ont adopté ce genre de législation, par exemple au Canada, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a fait des économies grâce à l'euthanasie et au suicide assisté. Donc on fait des économies d'au moins 1,5 milliard d'euros par an, par exemple, au Canada. Je ne crois pas que le législateur français ait cela en tête, mais tout de même, cela interroge. Il y a forcément un risque de dérive. Et pour terminer, Jean-François Colosimo s'interrogeait sur la possibilité de dérive, en fait, des critères, finalement, qu'on accepte pour cette aide à mourir. C'est un cas. C'est le cas aujourd'hui aux Pays-Bas. C'est le cas. Les critères sont progressivement relâchés. Et on passe du constat objectif et subjectif de la très grande souffrance à une définition entièrement subjective.
Cela pose évidemment. En Suisse aussi, oui, c'est le cas. Il y a une inflation en Suisse à partir d'une loi qui se voulait restrictive. La loi a cédé comme une digue cède. Et aujourd'hui, les critères sont simplement, je dirais, quasiment une forme de déclaration subjective.
Donc ça, c'est un peu presque une forme de plaidoyer contre le libéralisme économique que vous venez de nous faire, c'est-à-dire aller contre aussi la baisse, les baisses budgétaires dans un certain nombre de domaines, et notamment le domaine médical, puisque pour avoir plus de soins palliatifs, il faut aussi mettre plus d'argent. Quelle est votre position, Anne-Lorraine Bujon?
Alors moi, ma position, c'est que sur un sujet aussi sensible que celui-là, je pense qu'il ne faut pas s'étonner qu'on ne puisse pas trouver une loi de consensus. En fait, il ne peut pas y avoir de consensus. Mais en revanche, on peut chercher des compromis et on peut chercher à ce qu'il soit le plus équilibré possible. Je crois qu'il faut quand même commencer par rappeler que ces projets de loi ne sont pas sortis de nulle part. C'est bien qu'il y a une demande, il y a des associations, il y a une mobilisation. Vous l'avez dit, ça a été redemandé dans la Convention citoyenne en 2023. Donc il y avait un certain nombre d'associations de patients qui estimaient que les évolutions législatives précédentes, 2005, 2016, ne couvraient pas tous les cas, et notamment une série de cas limites dont on a beaucoup parlé, qui sont vrais, c'est vrai, assez rares et minoritaires, mais de maladies incurables qui provoquent des morts lentes avec des souffrances réfractaires physiques et psychiques.
Donc, et souvent citées par exemple la maladie de Charcot.
Voilà, il y avait une demande. Donc, quand le législateur s'empare de cette question, je crois qu'il répond à une demande sociale et je crois qu'il le fait bien. Mais on a aussi la chance en France d'avoir un cadre pour toutes ces questions de bioéthique qui est un cadre très équilibré. Et le Comité consultatif national d'éthique avait rendu un avis en juin 2022 que j'invite vraiment tous les auditeurs à aller consulter parce qu'il me semble très équilibré. Et qu'est-ce qu'il disait en fait ? Il disait que oui, il y a une voie éthique vers l'aide active à mourir, avec beaucoup de conditions strictes sur l'encadrement, la manière dont c'est fait, parce que ça change tout en réalité, la manière dont c'est fait. Mais il disait aussi que s'il n'y avait pas une évolution très rapide et très notable de notre dispositif de soins palliatifs, il n'y avait plus de voie éthique. Parce que justement, pour que ce soit une loi de liberté, une loi de liberté de choix, il faut bien qu'il y ait des choix. Il ne faut pas que l'euthanasie ou le suicide assisté devienne un choix par défaut. Ça, c'est ce qu'on veut absolument éviter pour des questions économiques, pour des questions psychologiques, pour des questions de non-accès aux soins. Il faut que les gens aient le choix. Et donc, le CCNE disait l'urgence absolue en France, c'est de développer le système de soins palliatifs, parce que tant qu'on n'a pas un système de soins palliatifs digne de ce nom, en fait, si on introduit aujourd'hui l'aide active à mourir, les gens n'auront pas vraiment le choix. Et en fait, le dispositif, c'est les lits, c'est les moyens, donc c'est une question économique, mais pas seulement. C'est une culture des soins palliatifs, on avait eu l'occasion d'en parler ici. C'est la formation aux soins palliatifs, c'est l'enseignement interdisciplinaire, c'est comprendre que c'est de la psychologie et de la médecine. C'est tout ça qui doit progresser avant qu'on puisse introduire l'aide active à mourir. De ce point de vue-là, le fait qu'on ait scindé la loi en deux, moi, ça me paraît, c'était du bon sens pour moi. Les soins palliatifs, je crois que c'est consensuel. Je crois que tout le monde veut plus de soins palliatifs en France. Faisons-le. La deuxième partie, l'aide active à mourir, il y a beaucoup de choses à discuter sur l'encadrement.
Sauf que la loi, elle est scindée en deux, mais pas dans le temps, puisque le vote solennel sur les deux textes est prévu le 25 mai. Si je suis votre logique, ça veut dire qu'il aurait d'abord fallu faire la loi sur les soins palliatifs, attendre que ça prenne véritablement effet, et ensuite on aurait pu discuter de l'aide active à mourir, c'est ça ?
Le séquencer dans le temps, c'était ce que demandaient certaines personnes à l'époque. Moi, je pense qu'il faut au moins séparer les deux discussions, parce que si on est sérieux et qu'il y a vraiment un plan décennal sur les soins palliatifs, qu'on développe les moyens, la culture, l'enseignement des soins palliatifs, alors si, en fait, on introduit une loi qui est un poil plus permissive que celle d'aujourd'hui, et qu'il y a ce développement des soins palliatifs, c'est possible. Donc, en tout cas, il semble qu'il fallait séparer les deux problèmes intellectuellement, même si dans le parcours des personnes concernées, évidemment que fin de vie, maladie, souffrance, grand âge, aide active à mourir, tout ça fait un tout pour les personnes concernées. Mais juste pour rappeler que les personnes concernées, ce sont bien sûr les personnes en fin de vie, mais c'est aussi les soignants, donc Jean-François Colosimo l'a rappelé tout à l'heure, et la société au sens large. Parce que de ce point de vue-là, les deux positions extrêmes, on entend beaucoup les extrêmes dans ce débat, alors que je pense que la majorité des Français se situe quelque part entre les deux. Vous avez des gens qui disent l'interdiction de tuer ne souffre aucune exception. Bon, je pense que c'est pas vrai. Et vous avez d'autres gens qui disent ces questions ne concernent que les patients en fin de vie. Mais c'est pas vrai non plus. Ça concerne la société au sens large.
Et puis aussi, il y a des questions de principe qu'on peut avoir à un certain moment de sa vie. Et quand on est confronté aussi à la fin de vie de ses proches, on peut peut-être parfois changer un peu d'opinion. Yves Bertoncini, comment est-ce que vous abordez, vous, cette question ? Alors, peut-être pas sur les soins palliatifs, parce que je pense qu'il y a quand même un vrai consensus, on l'entend, sur la nécessité de les développer, mais sur l'aide active à mourir. Est-ce que la France a besoin d'aller un peu plus loin, d'accompagner davantage ceux qui le souhaitent vers la mort?
C'est un débat très difficile, hein. C'est un débat de conscience, c'est à la fois un débat intime et politique. Je vais commencer par l'intime, si vous le permettez, parce que j'ai assez d'âge pour avoir vécu les fins de vie dans ma famille, les fins de vie de mes deux grands-mères en particulier. Orloi Leonetti, hein, Orloi Claes Leonetti, l'une qui s'est éteinte comme une bougie en une semaine, voilà, en tenant les mains de sa maman, qui est ma maman, et l'autre en revanche qui a agonisé très très longtemps dans un hôpital, et je crois qu'à l'époque une décision a dû être prise, hors tout cadre législatif. J'étais un peu jeune, mes parents ne m'en ont pas parlé. Ce que je veux dire par là, c'est que des choses se passent d'ores et déjà au niveau intime, personnel, dans le cercle des familles, dans le colloque particulier qui nous lie aux médecins. Et à nouveau, pour mon père et mon oncle, voilà, mon père avec un cancer, des soins palliatifs, en revanche, qui a pu partir les yeux ouverts, on lui a fait nos adieux. Et pour ce qui est de mon oncle, maintenu à domicile, déficient rénal, l'arrêt des dialyses qui a été décidé par lui, sa fille, et on a pu lui... Et ça aussi, c'est hors cadre législatif, ça se passe. Et donc c'est vrai que moi, je suis interrogatif sur la nécessité d'une loi, je le dis, dans un cadre comme celui-ci. Alors ensuite, bon, si je reviens à la politique, nourri de cette expérience personnelle, je regarde l'Europe, c'est un peu mon marque de fabrique, regard européen, et je vois que la France est au milieu du chemin, je dirais, parce qu'il y a en Europe des pays qui interdisent tout, des pays comme la Pologne, l'Irlande, la Roumanie, des pays où le christianisme, je crois, ça peut être lié à un poids fort, une dizaine de pays où rien n'est permis légalement, mais il se passe des choses tout de même, hein, à mon avis. Il y a une parce qu'il y a de l'humanité dans les familles et chez les médecins. Il y a une dizaine de pays, et la France en fait partie, où l'euthanasie, une forme d'euthanasie passive, c'est-à-dire l'arrêt des soins, pour dire les choses, avec des directives, ça c'est la loi Claes-Leonetti, et tout ça est organisé juridiquement. Et puis il y a des pays, et c'est peut-être vers là que la France est en train de se diriger, où on est allé un pas plus loin, c'est-à-dire des pays où il y a une forme d'euthanasie active, où le suicide assisté est en vigueur. En Europe, les pays du Benelux, hein, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, pays de la péninsule ibérique, Espagne, Portugal. Alors, j'ai un prisme Union européenne, mais on peut évidemment ajouter nos voisins suisses. Le Canada a été mentionné. Mais pourquoi je parle de l'Union européenne? Parce que ce que je souhaite, moi, c'est que, puisque ces pays en ont fait l'expérience de cette avancée législative ou évolution législative, pour ne pas choquer, on puisse regarder très attentivement ce qui s'y est passé. J'ai lu dans le débat récent des contributions de Néerlandais, notamment de Belges. Voilà. Je ne crois pas du tout qu'il y ait une rupture anthropologique en Belgique. Pour ma part, c'est un pays où j'ai habité. Mais en revanche, oui, c'est une rupture sociétale, c'est une évolution. Peut-être y a-t-il eu, et je pense aux critères, hein, qu'il faut retenir dans ces pays-là, une forme de dérive. Et donc, soyons attentifs aux critères. Je pense notamment en France, le fait que les délais puissent être respectés, un peu comme en Belgique, que deux médecins, pas un seul, soient impliqués dans une décision aussi lourde. Voilà. Et donc, ayant dit cela, quand je croise mon regard intime et mon regard européen, moi, il me semble, compte tenu de ce qu'a rappelé Anne-Lorraine, sans être tout à fait catégorique, que voilà, il y a quand même un mouvement d'extension des libertés. Je suis sensible à ce qu'a dit Laetitia Strauss-Bonnard, mais je dirais que le suicide est déjà une liberté. Il y a des gens qui se suicident, hein, dans notre pays. Bon, voilà. Et donc là, c'est une forme de suicide assisté. Pour autant qu'il soit bien encadré, je ne crois pas que ça forcera quiconque à subir une pression sociale ou financière l'inclinant vers cette extrémité-ci. Pour autant qu'il soit encadré correctement, voilà, ça sera sans doute, malgré tout, il y a une demande sociale, une demande politique, la création d'un nouveau droit que nul ne sera obligé d'exercer, mais il faudra bien s'en prémunir de cette pression sociale. Et donc, une nouvelle liberté qui est offerte à ceux qui en ont le plus besoin, hein, c'est-à-dire les personnes qui sont dans une situation tellement douloureuse, de telle souffrance, qu'elles veulent abréger ces souffrances, en terminer avec leur vie, et que peut-être on puisse les assister dans cette épreuve.
On est quasiment au terme de l'émission, j'aurais pas le temps malheureusement de redonner la parole à tout le monde, mais Jean-François Colosimo, vous vouliez ajouter un mot?
Oui, c'est une conversation, c'est un sujet de débat qui force à des, à des choses dans lesquelles on n'aimerait pas s'engager, mais effectivement, la maladie de Charcot, qui est terrible pour ceux qui, j'en fais partie, qui ont été au moins à proximité de cette maladie, c'est une maladie terrible. Elle est invoquée aujourd'hui pour dire « Ah, la loi de Leonetti ne suffit pas ». Dans le même temps, et c'est terrible ce que je vais dire, donc je prie tous ceux qui sont proches de tels malades de m'en excuser, mais les associations qui regroupent les gens qui sont malades et leurs entourages, c'est 0,01% de la société française. Je suis désolé d'avoir à dire ça. Donc, vous voyez, la gestion de la mort change complètement chez nous. L'incinération, les enfants qui veulent pas faire d'enfants. Et aujourd'hui, cette loi, ce sont des signes, je le répète, de nihilisme profond. Et c'est ça le véritable fond du problème.
Et là encore, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, puisque la loi va arriver bientôt en séance plénière à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup à tous les quatre, Anne-Lorraine Bujon, Laetitia Stroche-Bonnard, Jean-François Colosimo et Yves Bertoncini, d'avoir participé à cet esprit public. Émission préparée cette semaine par Léa Varin, réalisée par Luc Jean Reynaud, à la prise de son Marie-Claire Oumabadi. À dimanche prochain.